Voilà, le Sade sombre. Mais je vous ai dit qu'il fallait finir par une petite touche de légèreté. Sade, alors là, vous allez me dire que j'invente, mais non, était aussi un homme comique. Ça ne se voit pas forcément dans les passages qu'on a choisis, mais je tenais à finir aussi sur ce volet assez méconnu de son œuvre. Sade, je vous l'ai dit, a rêvé d'être un homme de théâtre, mais pas un tragédien, pas non plus un auteur de mélodrame, comme il aurait pu le faire à son époque où c'était le genre à la mode. Il s'est rêvé vraiment en auteur comique. L'idéal de Sade, pas forcément atteint, mais enfin, c'est le texte qui nous fait rire. Et du coup, les textes qui... Pour ça, je vous dis, bon... les textes qu'il signe, Aline et Valcourt, bon, les crimes de l'amour, non, c'est pas du tout comique, mais Aline et Valcourt, c'est un texte dont certains passages sont explicitement drôles. Sade a toujours voulu écrire des textes comiques. Et à la fin de sa vie, à Charenton, il va reprendre son recueil de nouvelles, Les crimes de l'amour. Alors, les crimes de l'amour, comme le titre l'indique, ce sont tous les crimes de l'amour, en l'occurrence l'inceste. C'est une série de 12 nouvelles consacrées à l'inceste, qui est une question obsessionnelle aussi chez Sade. Alors, rien de drôle dans les crimes de l'amour. Mais Sade décide d'écrire 12 nouvelles gaies, comme il dit, c'est l'adjectif qu'il emploie, des nouvelles à rire ou des nouvelles qu'il appelle encore plaisantes. Hein, au sens fort d'une plaisanterie, quelque chose qui fait rire. Et ces nouvelles légères, il veut les entrelacer, c'est le mot qu'il emploie, dans les nouvelles sombres. Autrement dit, le recueil idéal que Sade imagine pour toutes ces nouvelles, en réalité, il n'a pas le temps de le faire, il meurt avant. Ce n'est pas d'un côté le recueil sombre avec les crimes de l'amour et puis d'un autre côté les histoires légères. Le meilleur livre, c'est celui qui les mêle et qui les alterne, de sorte que le lecteur va passer du rire aux larmes. Hein, de la légèreté à la gravité. C'est ça le livre idéal, c'est celui qui nous promène comme ça d'une émotion à l'autre et d'un plaisir à l'autre. Mais il y a pour lui, chez lui, une vertu du comique. D'ailleurs, entre parenthèses, vous imaginez quelqu'un qui a passé 27 ans seul dans sa prison, une fois qu'il a fait tous les trucs sexuels possibles, imaginables sur son propre corps, une fois qu'il a mangé tout ce qu'il y avait de bon à manger, parce qu'il passe son temps à sublimer aussi par la nourriture, qu'est-ce qui lui reste pour ne pas avoir envie de se suicider? Le rire. Et donc, il imite les gardiens, il fait des sketchs, et il paraît qu'il est très doué pour les imitations. Et ses amis lui redemandent, mais imite-nous encore, monsieur machin, le gardien de Charenton. Alors, il fait le sketch, apparemment, il est très très fort pour faire les voix. Enfin, et du coup, il a aussi des complices à l'extérieur, des femmes qui le font rire, et il dit « Ah, j'ai ri, j'ai ri ». Du coup, c'est revivre, rire, déjà dans la vie, mais alors pour la sienne, a fortiori. Et donc, pour lui, c'est très important, l'histoire comique. Alors, l'histoire comique, c'est difficile de faire rire, c'est plus facile de faire peur. L'histoire comique, elle doit être brève, elle doit être piquante, elle doit être, comme il le dit, poivrée. Alors, je voulais qu'on finisse en entendant cette voix comique. C'est un petit conte de Sade, parmi ses contes légers qu'il a écrits à la fin pour les entrelacer, qui s'appelle « Il y a place pour deux ».
Une très jolie bourgeoise de la rue Saint-Honoré, d'environ 22 ans, grasse, potelée, les chairs les plus fraîches et les plus appétissantes, toutes les formes moulées, quoiqu'un peu remplies, et qui joignait à tant d'appât de la présence d'esprit, de la vivacité et le goût le plus vif pour tous les plaisirs que lui interdisaient les lois rigoureuses de l'hymen, s'était décidée depuis environ un an à donner deux aides à son mari qui, vieux et laid, lui déplaisait non seulement beaucoup, mais s'acquittait même aussi mal que rarement des devoirs qui, peut-être un peu mieux remplis, eussent pu calmer l'exigeante dolmen. Ainsi s'appelait notre jolie bourgeoise. Rien de mieux arrangé que les rendez-vous qu'on indiquait à ses deux amants. Desroux, jeune militaire, avait communément de 4 à 5 heures du soir et de 5h30 à 7, arrivé d'Olbreuse, jeune négociant de la plus jolie figure qu'il fût possible de voir. Il était impossible de fixer d'autres instants, c'était les seuls où Madame Dolmen fut tranquille. Le matin, il fallait être à la boutique, le soir, il fallait quelquefois y paraître de même, ou bien le mari revenait et il fallait parler de ses affaires. D'ailleurs, Madame Dolmen avait confié à une de ses amies qu'elle aimait assez que les instants de plaisir se succédassent ainsi de fort près. Les feux de l'imagination ne s'éteignaient pas, prétendait-elle. De cette manière, rien de si doux que de passer d'un plaisir à l'autre. On n'avait pas la peine de se remettre en train. car Madame Dolmen était une charmante créature qui calculait au mieux toutes les sensations de l'amour. Fort peu de femmes les analysaient comme elle, et c'était en raison de ses talents qu'elle avait reconnu que, toute réflexion faite, deux amants valaient beaucoup mieux qu'un. Relativement à la réputation, cela devenait presque égal, l'un couvrait l'autre, on pouvait se tromper, ce pouvait être toujours le même qui allait et revenait plusieurs fois dans le jour, et relativement au plaisir, quelle différence. Madame Dolmen, qui craignait singulièrement les grossesses, bien sûr que son mari ne ferait jamais avec elle la folie de lui gâter la taille, avait également calculé qu'avec deux amants, il y avait beaucoup moins de risques pour ce qu'elle redoutait qu'avec un, parce que, disait-elle en assez bonne anatomiste, les deux fruits se détruisaient mutuellement. Un certain jour, l'ordre établi dans les rendez-vous vint à se troubler, et nos deux amants qui ne s'étaient jamais vus firent, comme on va le voir, connaissance assez plaisamment. Desroux était le premier, mais il était venu trop tard, et comme si le diable s'en fût mêlé, Dolbreuse, qui était le second, arriva un peu plus tôt. Le lecteur plein d'intelligence voit tout de suite que de la combinaison de ces deux petits torts devait naître malheureusement une rencontre infaillible. Aussi eut-elle lieu. Mais disons comment cela se passa. Et si nous le pouvons, instruisons-en avec toute la décence et toute la retenue qu'exige une pareille matière déjà très licencieuse par elle-même. Par un effet de caprice assez bizarre, mais on en voit tant chez les hommes, notre jeune militaire, las du rôle d'amant, voulut jouer un instant celui de maîtresse. Au lieu d'être amoureusement contenu dans les bras de sa divinité, il voulut la contenir à son tour. En un mot, ce qui est dessous, il le mit dessus, et par ce revirement de partie, penchée sur l'autel où s'offrait ordinairement le sacrifice, c'était Madame Dolmen qui, nue comme la Vénus Callipyge, se trouvant étendue sur son amant, présentait en face de la porte de la chambre où se célébraient les mystères ce que les Grecs adoraient dévotement dans la statue dont nous venons de parler, cette partie assez belle en un mot, qui sans aller chercher des exemples si loin trouve tant d'adorateurs à Paris. Telle était l'attitude quand Dolbreuse, accoutumée à pénétrer sans résistance, arrive en fredonnant et voit pour perspective ce qu'une femme vraiment honnête ne doit, dit-on, jamais montrer. Ce qui aurait fait grand plaisir à beaucoup de gens fit reculer Dolbreuse.
« Que vois-je » s'écria-t-il. « Traîtresse, est-ce donc là ce que tu me réserves ?»
Madame Dolmen, qui dans ce moment-là se trouvait dans une de ces crises où une femme agit infiniment mieux qu'elle ne raisonne, se résolvant à payer des fonderies.
« Que diable as-tu » dit-elle au second Adonis, sans cesser de se livrer à l'autre. « Je ne vois rien là de trop chagrinant pour toi. Ne nous dérange pas, mon ami, et loge-toi dans ce qui te reste. Tu le vois bien, il y a de la place pour deux. »
Dolbreuse, ne pouvant s'empêcher de rire du sang-froid de sa maîtresse, crut que le plus simple était de suivre son avis. Il ne se fit pas prier et l'on prétend que tous trois y gagnèrent.
Merci.